Africa. Tout feu tout foot, l'émission 100% foot présentée par Lamine Badiane sur Africa Radio. Africa.
Salut à tous, hein, bien sûr, et bienvenue sur la radio africaine. Comme tous les lundis, nous sommes fidèles au rendez-vous de votre émission Tout Foot Tout Foot. Maintenant, vous avez l'habitude, hein, on va vous retracer toute l'actualité du football africain et des Africains à travers le monde. Ce lundi, nous allons avec vous rester sur le continent avec les élections à la Confédération africaine de football. Nous allons essayer de vous présenter tant bien que mal les différents candidats et surtout analyser cette phrase de l'Ivoirien Jacques Anouma qui appelle à une seule candidature pour l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, en Europe, nous parlerons bien sûr des différents championnats que sont celui d'Espagne, d'Angleterre et de France, avec toujours en toile de fond la prestation de nos Africains. Ce soir, avec moi, est-ce qu'il est là? Il s'appelle Hakim Djelwat.
On est là, coach Lamine Badiane, bel et bien présent pour ce bon début de semaine footballistique. Et très content de te revoir, coach Lamine. Comment s'est passé ton séjour sportif?
Ben écoute,
sur le continent,
il y a sur le continent, bien sûr, complètement.
Des kilomètres et des kilomètres de parcourus.
Kilomètres et kilomètres de parcourus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand même, il y a eu beaucoup de confinement. Beaucoup, ouais, de confinement. On est en train de parler de confinement de justement au niveau de la France, mais je peux vous dire que moi qui sors de Kigali, le confinement est magnifique là-bas. Hein. Je veux dire, c'est un confinement un coup de
agréable.
Non, mais c'est très agréable parce que tout le monde a compris. Vous ne pouvez pas sortir sans masque. Ouais. Vous avez le masque toujours. Si vous n'avez pas votre masque, on vous prend, on vous met dans le stade. On vous enferme dans le stade et on vous donne des messages.
Il y a une conscience individuelle et collective que l'on ressent.
Exactement. Alors ça, c'est clair et net.
Et puis ensuite, ils sont disciplinés, il faut dire.
Et puis en plus, vous êtes dans une bulle, vous sortez du stade, vous allez à l'hôtel et vous ressortez de l'hôtel, vous allez... Et puis vous êtes tout le temps testé. Donc ça veut dire que vraiment, c'est très suivi là-bas.
Et c'est du sérieux.
Et c'est très très sérieux. Par contre, en Égypte, où j'ai terminé, c'était quand même assez difficile, même s'il y a quand même
le décor n'était pas le même.
Le décor n'était pas le même. Tu avais l'impression qu'il y avait tous les samedis, il y avait un mariage, et puis ensuite, après, une semaine après, peut-être qu'il y avait un divorce.
Ouais, mais il faut aussi voir la densité de la population.
La population
égyptienne aussi. Hein.
Ça bougeait partout.
Ouais.
Comme des mouches. En tout cas, ce soir, vous l'avez entendu, sa voix, eh ben, c'est celle de Willy Dorkono. Bonsoir Willy.
Oh, bonsoir coach, bonsoir la belle Hélène, bonsoir Kim, bonsoir tout le monde.
Ben voilà, il ne manque plus que Christian Chango, bien sûr, le petit Christian Chango, que l'on embrasse et qui sera certainement avec nous dans quelques instants ou très certainement. Voilà. Donc, aux commandes de cette émission, Hélène Bizio, Africa Radio, Paris 107.5, Abidjan 191.1 plutôt, Brazzaville 94.5. Voilà, si vous pouvez nous écouter sur DAB+, bien sûr, Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, appelez-nous, WhatsApp 33 7 66 19 77 69, et puis le standard, parce qu'on va avoir besoin de vous pour parler un peu de tout ce qui est des élections à la Confédération africaine de football, 33 1 55 07 58 00. Et puis laissez-nous vos messages, bien sûr, sur Facebook, Tout Feu, Tout Foot, tout est collé.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Toi et Willy, Cali, Kike Bompéli, Bouchelou, les membres du fan club, tout fait, tout foot.
Ouais, tout fait, tout foutant. Elle est magnifique cette chanson.
Magnifique.
Ah ouais.
On enfin, sent la
bonne ambiance. Et
bien rythmée.
Ça m'a réellement manqué ça.
Ouais, ça fait du bien.
En tout cas, oui, ça fait du bien. Alors messieurs, on va parler de Confédération africaine de football avec une Confédération africaine de football qui s'est réunie, qui a tenu une assemblée générale ce 11 décembre 2020, marquée par l'absence bien sûr de Ahmad Ahmad, qui, rappelez-vous, a été suspendu 5 ans par la FIFA.
Ouais.
Et la nomination, et ça va vous faire plaisir, doyen Willy Dorkono, la nomination au poste honorifique de président d'honneur de l'institution, votre ami.
Issa, mon cher ami, Issa Hayatou.
Issa Hayatou.
Oui, parce que par rapport à son bilan, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui par rapport à son bilan, parce que lui, il a fait des décennies. À la tête de cet organisme. Et on a vu sa succession, ça se passe très mal. On n'a même pas fait 10 ans avant qu'on entende des bruits.
Les échos.
Les échos du couloir. Donc bravo à ce monsieur. Mais je l'ai toujours dit, les gens pensent qu'il me donne quelque chose, ce qui n'est pas vrai. Je ne suis même pas camerounais. Mais moi, je le juge par rapport à son bilan.
Hakim, est-ce que la CAF n'a pas attendu trop longtemps pour en faire vraiment un président d'honneur? Parce que quand même, quand il y a eu combien de mandats d'Issa Hayatou?
Issa Hayatou a été très longtemps dirigeant de la Confédération africaine de football, coach
Lamine. Parce que normalement, quand on a à peu près 2 ou 3 mandats, on sort, on est président honorifique, on est président d'honneur.
Oui, c'était le cas de M. Avelange au niveau de la FIFA.
Exactement, donc on est président d'honneur de fait, de toute façon. Ouais. Donc pourquoi attendre jusqu'à la suspension d'Ahmed Ahmad pour pouvoir lui donner ce titre honorifique.
Il faut
se poser ces questions.
Il faut le rappeler, coach Lamine, c'est important de le dire. Malgré ses 74 ans, effectivement, et ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, puisque Issa Hayatou, coach Lamine, a gouverné pendant très longtemps. Hein. Il faut le rappeler. Par rapport à son passage au sein de la Confédération africaine de football, il y est entré, écoutez bien, cher auditeur, chère auditrice, en 1988, et il y est sorti, coach Lamine, en 2017, sachant qu'il avait aussi l'envie de poursuivre pour œuvrer pour le football africain. On le rappelle aussi dans ses autres activités, coach Lamine, il est vice-président de la FIFA pour le continent africain. Il a été président de la FIFA aussi par intérim du 8 octobre 2015, coach Lamine, et ça aussi c'est important de le souligner, pendant les affaires où Sepp Blatter avait pas mal de soucis à se faire par rapport à la justice suisse. Il a été, Issa Hayatou, président de la FIFA par intérim du 8 octobre 2015 au 26 février 2016. Issa Hayatou, il faut le rappeler, coach Lamine, il est natif de Garoua, du côté du Cameroun. Il a été, bien sûr, longtemps, tout simplement, au sein de la Fédération camerounaise de football. D'ailleurs, il y est rentré très très tôt, coach Lamine. Il y était rentré à l'âge de presque 22-23 ans. Il a commencé à avoir des responsabilités très très tôt dans le milieu sportif. Et c'est quoi qui caractérise Issa Hayatou? C'est tout simplement le souhait de bien faire, mais surtout de donner et partager ses compétences pour le bien commun de l'éducation par le sport. Et il l'a fait dans son pays, il s'est dit pourquoi pas effectivement proposer mes compétences au sein d'une confédération africaine de football qui faisait des choses intéressantes, mais il a apporté justement, et il faut le dire, coach Lamine, il a révolutionné le football africain pendant toute la période à laquelle il a été effectivement président de la Confédération africaine de football.
Ouais, mais il est sportif aussi, il faut souligner qu'il est... Il était sportif.
Il était sportif également, bien sûr. Ouais.
Et lui, ce que j'ai remarqué, pourquoi je le supporte tout le temps, parce que lui, il mettait l'intérêt du football africain devant tout. C'est-à-dire qu'il réclamait beaucoup de choses pour le football africain. On a vu, les Africains étaient à 2 pour participer à la Coupe du Monde.
Tout à fait.
Et vers la fin de son mandat, on a participé même à 6.
Il faut le rappeler comment il est rentré, coach Lamine, à la Confédération africaine de football. C'est important aussi de le souligner d'un point de vue historique. Issa Hayatou, le doyen Issa Hayatou, suite au décès de l'Éthiopien Tessema, il était devenu en août 87 le 5e président de la Confédération africaine de football, coach Lamine. En 90, il avait obtenu une nouvelle fonction en devenant membre du comité exécutif de la FIFA, la Fédération internationale de football, tout de suite Martin très très tôt. Il a obtenu ses responsabilités. C'était un désir, un souhait. Et sous son mandat de président de la CAF, coach Lamine, pendant près de 20 ans, le football africain a connu une véritable avancée. Comme je disais tout à l'heure, il a révolutionné effectivement le football au sein du continent africain. Il a réussi à faire obtenir 5 places au lieu de 2 pour les pays de sa confédération dans la plus prestigieuse des coupes du monde de football, hein, la Coupe du monde de foot. Plusieurs, effectivement, avait proposé effectivement d'intégrer autant de pays qu'en faire se peut pour pouvoir justement participer à cette Coupe du Monde. Mais le seul qui défendait à corps et âme pour pouvoir mettre effectivement en avant la place du football africain au sein de cette Fédération internationale de football, mais notamment aussi au sein de cette Coupe du Monde, la plus prestigieuse des coupes en football, eh bien c'est Issa Hayatou. Et ça, il faut bien lui accorder ça, effectivement.
En tout cas, il a été donc. Ce sera pour le 11. Je regarde mes notes. Il sera donc intronisé président d'honneur, président honorifique de l'institution lors du CHAN qui va se dérouler au Cameroun. Mais ce qu'il y a comme question que je pose, c'est pourquoi avoir attendu qu'un homme, que le président de la CAF, Ahmad Ahmad, soit absent, parce qu'il était absent lors de ce 11 décembre, ne soit pas là pour qu'on puisse donner la possibilité à Issa Hayatou d'être quand même membre d'honneur ou président d'honneur de cette institution. Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Ça, c'est une chose. En tout cas, pour être concret par rapport à cette Assemblée générale, il faut reconnaître que Ahmad Ahmad n'était pas là.
Oui.
Mais il a quand même écrit une lettre pour dire un discours, hein, justement un discours où il prononçait devant, qu'il devait prononcer devant les journalistes, mais malheureusement il n'a pas pu. Il critique de manière à peine voilée l'attitude de la FIFA. Celui-ci n'aurait pas accepté qu'un audit mené par la Sénégalaise Fadma Samoura au Caire ait pris fin en février sur décision du comité exécutif de la CAF. Alors donc ça, je le cite, hein, donc c'est
oui,
ça.
Mais c'est sa faute. Et pourquoi sa faute? Je dis parce que c'est lui qui n'a pas donné ce sentiment d'autonomie et de liberté du football africain par rapport à la FIFA.
Surtout
ce que l'Afrique avait avant.
Surtout peut-être de la
clarté. Mais surtout
aussi
de l'indépendance. Mm-hmm. C'est-à-dire que sous le règne de M. Ahmad, j'ai l'impression que la FIFA et la CAF étaient sous tutelle de la FIFA. Mm-hmm.
Parce qu'il dit bien.
En tout cas, c'est mon impression.
Face à ce choix de dire Mme Samoura, c'est terminé, les opposants ont pris parti de plonger la Confédération africaine dans un tumulte politique inimaginable. Donc. Faut pas oublier que quand même, malgré qu'il soit mis en examen, qu'il soit suspendu, il est quand même toujours candidat, je pense, puisque il a fait appel au tribunal arbitral des sports par rapport à la situation. Donc peut-être que.
Oui, mais peut-être que. Oui, mais moi, son règne n'a jamais été souhaité, n'a jamais été. Et moi, j'ai jamais accepté le fait ou mais sa façon de diriger la CAF. Donc moi, qu'il soit écarté ou pas, ce monsieur ne m'a jamais intéressé au niveau de la CAF.
Alors, Hakim, une expression qui est sortie de la bouche de Constant Omari, qui dit il est tout à fait normal que la CAF lui soit reconnaissante pour toute son œuvre, en parlant d'Issa Hayatou. Est-ce que réellement, vous ne trouvez pas que ce vice-président de la Confédération
c'est hypocrite.
Africaine...
C'est hypocrite. C'est hypocrite, coach Lamine, parce que il faut quand même le rappeler. Constant Omari était le soldat numéro 1 de Ahmad Ahmad.
Ahmad,
lorsqu'il a été effectivement intronisé président de la Confédération africaine de football par intérim, coach Lamine, quand Ahmad effectivement a eu quelques petits soucis, bien évidemment, ça a été un. On s'est tout de suite posé des questions. Qui effectivement était bien évidemment qui a pris parti avec ce président Ahmad qui a été élu, bien évidemment, mais qui était effectivement autour de lui et qui étaient ses amis, non pas bien sûr ses ennemis, mais ses amis. Et ses amis, ils en font partie. Il y a notamment effectivement le président de la fédération de la FECOFA, donc le président de la fédération de congolaise de football, Constant Omari, et qui a été son soldat numéro 1. Ouais. À chaque apparition où Hamad effectivement était déstabilisé par la presse, par les médias, c'est lui qui défendait, c'est lui qui parlait, parce c'est lui qui prenait position et c'est lui qui défendait.
Il dit bien, il y a empêchement, il y a l'empêchement de notre frère et ami, le président Hamad, élu et qui désormais a engagé une lutte pour sa dignité et pour faire valoir ses droits.
Oui, mais on l'a empêché. Pourquoi ? Il sait pourquoi on l'a empêché.
Bah parce que tout le monde le sait aussi. De toute façon, lui aussi, il est en train de bouger. Son bateau tangue. Hein.
Ouais, mais est-ce on que tu penses que lui, moi, je n'ai aucune envie ou ben même ça ne passe même pas dans mon esprit d'écarter M. Hamad de M. Omari. Mais c'est le même.
C'est la même équipe. C'est le même bateau.
Ouais.
Oui.
Oui, non, c'est effectivement pour réagir par rapport à ce que vient de dire Willy Dorkenou. Alors après, moi, je il faut effectivement prendre ce sujet avec beaucoup de recul, coach Lamine Badiane, même si effectivement, on sait que l'Assemblée générale de la CAF qui a eu lieu justement pour introniser le président Issa Hayatou, président d'honneur et honorifique de cette Confédération africaine de football. Je trouve que cela est légitime parce que tout le bien qu'a apporté Issa Hayatou lors de son passage de 1988 à 2017, c'est tout simplement ce qu'on lui devait effectivement. Et à un moment donné, quelqu'un qui part effectivement de cette Confédération africaine de football en tant que président, après avoir bâti beaucoup de choses, que ce soit pour le football féminin, il faut quand même le rappeler, Lamine. Il a énormément œuvré, notamment pour la multiplication des compétitions en football féminin, en beach soccer, pour le football diversifié, comme on l'appelle, pour le futsal également. Et d'entendre effectivement que Issa Hayatou a été sollicité et a rejoint cette Confédération africaine de football qui est en plein désarroi, il faut le rappeler. Elle est en plein désarroi, coach Lamine.
De toutes les façons,
L'image de la CAF a été ternie par la présence et par le passage d'Hamad Hamad.
Oui, mais c'est ce que je dis. Ouais. Il n'arrête pas de. Un jour même, quand il venait il prenait le poste, je vous avais dit ici sur ce plateau que moi j'attends dans un lundi soir dans 20 ans pour qu'on compare le règne de Monsieur Hamad par rapport au règne de Monsieur Hayatou. Mais on n'a même pas fait deux ans. On a vu ce qui se passe. Donc moi je sais ce qu'il allait arriver.
En tout cas, le 15 janvier prochain, le 15 janvier 2021, Issa Hayatou sera le président d'honneur de la Confédération africaine de football. Voilà. Donc, on clôt ce débat et on va arriver peut-être. Il n'y a pas eu que ça, bien sûr, par rapport à l'Assemblée générale, puisqu'il y a eu la situation financière qui a été faite, mais ça, on le laisse bien sûr aux techniciens, ouais. Tout en sachant qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été. Réellement
clair,
c'est ce qu'on dit. Ouais,
la seule chose qu'il faudra quand même effectivement souligner que dans ce court passage, coach Lamine, au sein de la Confédération africaine de football, l'ex-président Hamad Hamad, qui a été bien sûr suspendu 5 ans par la FIFA, il faut le rappeler, 5 ans par la FIFA, il aura apporté quand même effectivement un petit peu plus d'équipe, il aura transformé la Coupe d'Afrique des Nations, passant coach Lamine à 24 équipes, et notamment aussi en proposant suite à un comité exécutif de la Confédération africaine de football une proposition en fait de Ligue des champions féminines qui devra voir le jour en 2021. Ce sont les deux effectivement grandes, on va dire entre guillemets, réformes qu'il aura apporté pendant son court mandat, alors qu'il n'est pas encore terminé.
Attention, Hakim, le championnat féminin a été mis en place non pas par Hamad Hamad, mais par la FIFA. Attention. Hein.
Mais c'était sous la proposition, coach Lamine, de Hamad Hamad qui avait effectivement fait suite à un comité exécutif une proposition de nouvelle compétition pour pouvoir rendre le football diversifié.
Ils avaient même, non pas reporté, mais ils avaient suspendu le football féminin, dire la Coupe d'Afrique
pendant
ce qui avait créé
la pandémie.
C'est la FIFA, ouais, qui a obligé à faire les clubs, etc., etc.
Il s'agit en tout cas de la première compétition féminine, coach Lamine, en club, qui sera organisée à partir de 2021.
Une chose est sûre, rapidement sur la situation financière, l'ECA, comment il s'appelle, Fawzi Ledja, a expliquer que les charges ont tellement augmenté par rapport au fait qu'il y a eu une augmentation pour chaque fédération de 200 000 dollars et on a décidé aussi de d'augmenter les prize money aux clubs et aux fédérations à l'occasion des différentes compétitions. Et quand on décide d'augmenter le nombre d'équipes nationales participant au tournoi de jeunes, évidemment, l'impact augmente. Donc on parle d'un budget prévisionnel, un déficit de 13,6 millions de dollars.
Oui, mais moi, ce qui m'avait effrayé sous le règne de M. Ahmad, c'est surtout le fait que beaucoup parlaient de la CAN tous les 4 ans, ce qui est pour moi la fin de la progression du football africain, parce que et plus les compétitions sont régulières, plus le niveau augmente. Mmh. Donc c'est ce qui a fait que le football africain a fait des progrès rapides. Mais ceux qui parlent tous les 4 ans, ils sont en train de m'effrayer. J'ai
tellement
peur.
Mais c'était une proposition.
Oui, mais même pas. On peut même pas penser à ça. Mmh. J'ai jamais entendu parler. Sous le règne de M. Ayatou, personne n'a parlé de ça. Et aussi changer la période de la CAN. En hiver, c'est-à-dire ouais, au mois de janvier, et de jouer en été, tout ça, c'est parce que.
Et beaucoup de controverses, il a raison, vous dites Dorkenou, coach Lamine, quand il dit ça. C'est-à-dire, on a eu des changements qui ont brutalisé les compétitions et les agendas du football africain. On a aussi brutalisé, coach Lamine, l'agenda des joueurs africains qui évoluent dans d'autres pays en Europe pour beaucoup, effectivement, qui évoluent du côté de l'Angleterre, la France ou l'Espagne ou ailleurs. Et c'est vrai que il y a eu des décisions qui ont été prises rapidement avec, on peut le dire, avec pas beaucoup de réflexion, de recul. Et ce qui a bouleversé, coach Lamine, le calendrier, effectivement, de toutes les autres compétitions également au niveau européen. Et même Gianni Infantino s'était exprimé en disant stop, quoi. Ahmad, il va falloir maintenant se calmer au niveau des compétitions, du changement de date, du changement de calendrier. On a vu aussi l'épisode triste et douloureux pour le Cameroun par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations, coach Lamine. Elle va être organisée dans le pays, elle ne va pas être organisée. Les stades, on va aller vérifier pour voir où ça en est. Et effectivement, il s'avère que selon des journalistes et des spécialistes qui étaient sur place, l'avancée était plutôt positive au niveau de la construction des stades. Mais de l'autre côté, la Confédération africaine de football, sous la direction d'Ahmad Ahmad, elle disait que les stades ne sont pas prêts, donc gare au Cameroun si dans quelques semaines ou dans quelques mois les infrastructures ne sont pas prêtes, la Coupe d'Afrique des Nations sera annulée.
En tout cas, une chose est sûre, Doyen Willy, ouais. Une chose est sûre, Hakim, c'est sûr, on va faire une pause. Mais la Confédération africaine de football est dans une situation financière extrêmement critique. Et donc, dans la deuxième partie, là, tout à l'heure, après la pub, on va parler des différents candidats qui vont arriver pour faire les élections.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Sur Africa Radio, bien sûr, vous nous écoutez sur le 107.5, Abidjan 91.1, Brazzaville 94.5. N'est-ce pas, Mantes-la-Jolie 87.6, Abidjan 91.1, ça je l'ai dit. Hein.
Abidjan, ouais, on nous écoute. Hein. Les taxis, les...
Ouais, les woro-woro, on dit.
Exactement.
Les woro-woro. On dit les woro-woro. Et au Bénin, on dit quoi?
Les Djembidjans. Je connais surtout les Djembidjans que j'adore. Ils sont en jaune, ils bloquent la circulation.
Ils te passent à gauche, à droite.
Oh, mais j'adore Cotonou.
Avec le doyen Willy Dorkenou, Hakim Djelouat, bien sûr, et le coach Lamine Badiane pour vous décortiquer. Ce qu'on est en train de vous dire, bien sûr, c'est la Confédération africaine de football avec donc des élections. Et comme on le disait tout à l'heure, le 11 décembre dernier, il y a eu l'Assemblée Générale et l'Assemblée Générale qui a donc vu l'intronisation, hein, c'est
oui,
bien ça. Hein,
tout à fait.
De l'ami du doyen Willy Dorkenou. Le président Issa Hayatou comme président d'honneur. Ouais. Et bien sûr, avec certaines choses qui ont été prises par rapport à ça. Donc maintenant, messieurs, on a dit par rapport à la situation financière de la Confédération africaine de football. Il faudra que le prochain président,
ouais,
soit vraiment bien armé financièrement pour pouvoir régler les choses, hein, parce que je peux vous dire que...
Oui, mais c'est pas à lui de
il faudra qu'il trouve des solutions.
Oui, mais c'est pas à lui de financer.
Non, mais c'est pas à lui de financer.
Mais fonds propres.
Mais non, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faudra qu'il soit bien outillé pour savoir comment régler le problème de la Confédération africaine
surtout,
de football.
Et surtout.
Parce que ça devient un impératif pour dégager des ressources pour permettre à la CAF
exactement.
Non seulement de survivre, mais de dégager des marges pour investir dans le développement du football.
Oui, mais c'est pas ça qui manque, parce que déjà, si ton ami a été écarté, c'est parce qu'il y a des malversations et financières. Donc, ça veut dire que les sous existent là-bas.
En tout cas, ce sera le 12 mars prochain. L'Afrique devra choisir un nouveau président de sa confédération de football. C'est un poste hautement politique et essentiel pour la croissance du football d'un continent qui approvisionne l'Europe en joueurs de qualité,
oui,
mais dont les championnats comme les résultats dans les grandes compétitions africaines le reste en dessous du potentiel du continent.
Ça, oui, c'est... là tu as bien dit. Ouais. Parce que ce qui me chagrine un peu, c'est que les joueurs africains,
oui,
sont devenus les cafés cacao de...
Tout à fait.
Donc on fabrique les joueurs pour les exporter.
Oui.
Donc on a vu que nos championnats sont très pauvres, sauf en Afrique du Sud, en Tunisie, en Égypte ou ailleurs. Donc ça aussi c'est très très difficile, il faut mettre fin à ça.
Alors parmi les cinq, je dis bien
parmi les cinq candidats
en lice figure Ahmad Ahmad,
oui,
que vous le vouliez ou pas.
Moi je le veux pas, mais...
Mais bon, ça c'est ton problème.
Ouais.
Ahmad Ahmad, qui est le président sortant, le malgache est âgé de 60 ans. Il a connu son lot de polémiques et de succès durant son mandat de 4 ans. Et parmi ses faits d'armes, une réforme réussie du format de la Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes depuis 2019.
Mmh. Oui, là c'est sympa déjà.
Ainsi que la création d'une Champions League africaine féminine, ce dont parlait tout à l'heure notre ami Hakim. Ahmad Ahmad est par ailleurs accusé de corruption et de harcèlement, ce qui pourrait lui valoir une suspension. C'est déjà fait. Mais le candidat sortant à l'annonce de sa candidature à sa propre succession,
ouais,
avait dit « Je ne pense pas que qui que ce soit ne se présente contre moi. Mmh. » Alors automatiquement, quand il a dit ça, ouais, il y a eu une multitude de candidatures.
Ouais, mais je ne comprends pas ça, cette sortie-là.
Ah ben écoutez, parce qu'il avait confiance en lui.
Mais c'est une sortie antidémocratique.
Mais il avait confiance. Ah, mais bon, je veux dire qu'on en a vu, hein, des antidémocratiques.
Oh, mais c'est pas ça qui manque sur le continent là-bas. Donc,
ça, je ne l'ai pas dit. Hein. Moi qui vais souvent sur le continent, je ne l'ai dit pas. Hein.
Moi j'y vais aussi, mais il faut dire ce qui se passe là-bas.
En tout cas, quatre autres personnes se sont déclarées candidates à la présidence de la CAF. Parmi elles, Jacques Anouma, 70 ans, ancien président de la Fédération Ivoirienne de Football,
oui,
ancien cadre d'Air France et de Renault, est un candidat porté vers l'amélioration des résultats des nations africaines sur la scène mondiale. Déjà candidat en 2013, il avait été défait par Issa Hayatou. Il y a aussi Augustin Senghor, sénégalais de 56 ans, président de la Fédération sénégalaise de football, qui sera le candidat du consensus. Considéré comme un outsider, il a le mérite d'être un candidat respecté de tous pour son action dans le monde du football en Afrique, mais aussi à travers sa profession d'avocat spécialiste en droit des affaires. Il y a le Sud-Africain Patrice Motsebe, 58 ans, actuellement président des Mamelodi Sundowns. C'est un candidat qui dispose d'une assise financière confortable. Milliardaire depuis 2003, il est la 10e fortune d'Afrique, patrimoine amassé via le groupe africain Rainbow Minerals qu'il dirige.
Ouais.
Et pour finir, Ahmed Yahia, qui lui est le Benjamin des candidats, à 44 ans, sa candidature a pu surprendre car il est considéré comme un proche du sortant Ahmad Ahmad. Le Mauritanien veut développer les revenus de la CAF, mais aussi le football féminin.
Ouais.
Il dispose d'une carte et non des moindres dans sa manche. C'est un homme apprécié par la FIFA et son président, Gianni Infantino. Messieurs, avant de vous donner la parole, on va aller du côté du Standard. Jomo Dobeng, bonsoir.
Bonsoir, coach. Bonsoir à toute l'équipe.
Et bonsoir.
De foot, tout foot.
Bonsoir, on vous écoute.
Je vais commencer d'abord la nomination d'Issa Hayatou. qui nous prouve encore une fois de plus qu'au Cameroun, la longévité au niveau du pouvoir est toujours d'actualité.
On parle de football. On parle de sport.
Je comprends ce que bien dit Doyen Willy parce que c'est son gars, je comprends. Mais laissez-nous au moins critiquer un tout petit peu ce qu'on pense. Ça s'appelle de la démocratie aussi en football. Merci. Et donc, du coup, je suis certain que, voilà, aujourd'hui, nous avons la candidature de Jacques Hanouma, que je vais d'ailleurs plébisciter à patriotisme, mais parce que c'est un grand dirigeant du football africain. Nous savons que Jacques Hanouma aussi, comme Colt l'a dit à l'entame de ses propos, il a dit qu'il fallait quelqu'un qui soit, en tout cas financièrement, pas posé, mais qui peut avoir des... Oui, ce dernier a été trésorier de la présidence en Côte d'Ivoire sous Gbagbo Laurent. Donc tout ça, ça va à sa faveur. Mais je dirais quelque chose. Moi, je ne prends pas tout ça. Je voudrais que le nouveau président, qui sera bien sûr Jacques Hanouma, que j'ai prédécide d'ailleurs de toutes les façons, vienne et qu'il redynamise, qu'il donne encore du renouveau au football africain. Parce que nous avons tous plébiscité Ahmad Ahmad, c'est sûr et certain, là. J'étais même en contradiction souvent avec le doyen Willy.
J'avais raison.
Qui aujourd'hui, il a eu raison aujourd'hui, de toutes les façons, il a eu raison aujourd'hui. Et ça, je le reconnais. Parce que ce monsieur-là a vraiment terni l'image du football africain, parce que son nom était très, son nom a apparu, bien sûr, dans beaucoup de choses qu'il ne fallait pas. Et aujourd'hui, le football africain, c'est-à-dire que les instances, la CAF même, si vous voulez, aux yeux du monde entier, ne représente plus rien. Ça, c'est sûr et certain. Mais aujourd'hui, nous avons en main une carte de choisir un nouveau président qui va encore donner un nouvel élan au football africain. Je dis bien au football africain. Je ne parle pas du football des nations comme la Côte d'Ivoire et tout ça. Non, non, non. Au football africain. Et qu'on ne soit pas seulement des producteurs de footballeurs pour l'Europe, mais aussi que nous le développons dans nos propres pays. Aujourd'hui, il y a des stades qui se construisent partout en Afrique. Je parle par exemple du stade de Bempe de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tout le monde plébiscite, n'a rien à voir avec des stades européens. Mais après des Coupes d'Afrique, qui va aller jouer là-bas? Pourquoi? On n'aura personne. Le football, le stade n'aura que de nom, le stade de Bembe, un stade olympique. Et donc, le prochain président qui va venir, il doit quand même essayer de redynamiser le football local. Au lieu qu'on soit des producteurs de joueurs, comme on est producteur de cacao, on est producteur de fer, on s'en chante, on s'en tape les poitrines. Mais si on ne sait pas transformer nos produits nous-mêmes, on sera toujours là à tendre la main à l'Occident.
Okay.
Pourquoi d'ailleurs quand vous
rapidement.
Quand vous voyez aujourd'hui le football européen, Nos joueurs qui ont été formés, ou je dirais bien des joueurs qui viennent de l'Afrique, c'est de grands joueurs. Je parle de Didier Drogba, qui sera encore président de la FIFA, ça c'est sûr et certain. Je parle des Autofis, je parle du Sénégalais qui vient de mourir, paix à son âme, et je m'incline déjà depuis ma maison devant sa dépouille mortelle, et que le paradis soit sa demeure. Des gens comme ça, là, qui sont partis. Et à leur temps, le football aujourd'hui n'avait même pas ce que le football a. Et donc, je voudrais que le nouveau président qui viendra, qui est Jacques Hanouma, je suis sûr et certain, puisse redynamiser, puisse encore donner du souffle à la Fédération africaine de football.
Merci, Diomo Debang. Merci, mais bon, je voudrais juste retenir deux choses hein, par rapport à ce que vous dites. La longévité par rapport à Issa Hayatou, ce n'est pas un problème de longévité. Quand on donne la possibilité à quelqu'un d'être président d'honneur, ce n'est qu'un titre honorifique. Laissez-moi finir. C'est un titre honorifique et c'est un titre politique. Je veux dire, quand on est président d'une fédération ou d'une association pendant 2, 3, 4 mandats, on devient de fait, ouais. Je dis bien de fait, on devient président d'honneur. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle...
Alassane Ouattara deviendra président d'honneur de la Côte d'Ivoire.
Vous êtes, ça, c'est
votre problème. Ouais. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas...
Il est têtu, mais je demande.
Exactement. Et puis... Et puis en ce qui concerne les stades, ça veut dire que quand on vous écoute, on a l'impression qu'il ne faut plus construire de stades parce que tout simplement.
Il a raison.
Mais
il voulait dire que nos joueurs, il faut consommer nos joueurs sur place.
Voilà. Oui,
c'est ce qu'il est en train de dire.
Mais on va en fabriquer des joueurs. Ces joueurs-là qui permettent aussi aux fédérations nationales d'avoir un peu de l'argent, d'entrée d'argent.
Mais c'est ce qu'il
faut reconnaître. Donc ces stades-là, il faut bien qu'on continue à faire des stades. Et ne pas laisser les stades mourir ou bien les donner à des pasteurs comme Jomo Dobeng.
Oui, mais il avait dit qu'il faut consommer nos joueurs sur place et ne pas les préparer pour l'esport.
En tout cas,
il a raison.
En tout cas, merci d'être venu. Voilà.
C'est vrai que nos joueurs locaux, je ne sais pas moi, profitent de ces stades-là, profitent du moins de nos joueurs locaux qui sont de grands championnats.
Oui, ben, on le fait. Il y aura des grands championnats. Championnat de Côte d'Ivoire est un des rares championnats à être diffusé sur Canal+.
Oui, mais le
problème, si vous le savez.
Mais le championnat de Côte d'Ivoire actuel.
Ah, ça, j'en sais rien, c'est pas mon problème.
Ça, c'est autre chose.
Non, c'est pas mon problème. Merci, Jomo Dobeng. Merci beaucoup.
Merci.
Jocelyne, vous êtes avec nous. Bonsoir.
Bonsoir à tous les amis auditeurs de Africa Radio.
Comment ça va, Jocelyne?
Ça va très bien, Kim. Bonsoir, Willy.
Bonsoir.
Bonsoir, tout le plateau.
Merci.
Merci. Bonsoir. Vous restez avec nous. On va continuer à décortiquer un peu les présidents, les candidats présidentiels à la Confédération africaine de football. Willy, vous avez eu donc tous les noms, tous les 5 candidats.
Oui.
Il y a bien sûr Ahmad Ahmad. S'il est blanchi, il sera candidat. Il dit lui-même qu'il a eu 46 fédérations qui peuvent.
Il faut un détergent et assez efficace pour le blanchir.
Ça, je ne peux pas, vous dire. Okay. Il y a donc Jacques Anouma, dont on a parlé tout à l'heure.
Ouais.
Il y a bien sûr Augustin Senghor, celui du Sénégal.
Ouais.
Et puis ensuite, le dernier, c'est Ahmed Yahia. Votre choix, vous, et pourquoi?
Et moi, je pense pour deux candidat. Et déjà, le premier, pour moi, c'est M. Jacques Anouma, par rapport à ce qu'il avait fait quand il était en poste au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai vu la progression et sa compétence par rapport... Parce que si on a une idée assez précise sur le football, et surtout sur le football africain, on se rend compte que M. Anouma a fait du bon boulot, comme on dit, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc,
c'est le premier qui a dit on se donne 2 ans pour aller en Coupe du Monde. Hein.
Oui, mais il a dit, il a fait.
Oui, il a fait.
Ouais, on a vu le niveau et même le classement de la Côte d'Ivoire par rapport à ça. Il a fait parce qu'il sait comment gérer la Côte d'Ivoire pour être à ce niveau. Donc bravo à ce monsieur. Et le second, c'est M. Ahmed Yahia, que c'est plus actuel. Donc c'est pour ça que les yeux sont braqués sur lui par rapport à ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la Mauritanie. On a vu ce que les Mauritaniens, les Morabitoun ont fait lors de la CAN et ils sont en train de faire. Et même au niveau des clubs en Mauritanie. Donc mes deux, je les choisis par rapport à leur bilan, par rapport à ce qu'ils font pour le football africain.
Alors donc justement Ahmed Yahia Hakim.
Oui, alors concernant Ahmed Yahia, coach Lamine Badiane, Ahmed Yahia, président de la Fédération Mauritanienne de Football, que j'avais invité, coach Lamine, sur le plateau de Tout Feu Tout Foot, pour s'exprimer notamment sur ses actions au niveau de la Fédération Mauritanienne de Football. Il s'était exprimé, il avait œuvré énormément ces 5-6 dernières années, coach Lamine, pour pouvoir mettre en place une stratégie de développement du football local, du développement du football aussi notamment professionnel. Il y a un championnat professionnel qui a lieu du côté de la Mauritanie et ça se passe plutôt bien. Il y a les infrastructures aussi qui ont été revues et rénovées. On a également le développement du football féminin du côté de la Mauritanie qui a nettement progressé, avec aussi une touche particulière, coach Lamine, pour le football des jeunes. Ahmed Yahia est un fervent supporter du football local et il le dit souvent, comme notre doyen Woody Dorkenou le dit effectivement sur ce plateau, le football passe par effectivement le football de la jeunesse avant celui des adultes. Et effectivement, il a énormément investi sur le football de la jeunesse, Ahmed Yahia, dans son pays, du côté de la Mauritanie. On le rappelle, hein, Ahmed Yahia, coach Lamine, il est bon. Alors c'est vrai qu'il est considéré comme un proche d'Ahmad Ahmad, il ne faut pas effectivement se cacher ça. Il côtoie notamment donc il côtoyait effectivement Ahmad Ahmad depuis qu'il a été intronisé au comité exécutif de la CAF depuis 2017, coach Lamine. Le président Ahmed Yahia, lui, c'est un homme d'ambition. Il est patron du club de FC Noua Dibou, l'un des meilleurs du pays, il faut le rappeler.
Ouais.
Et dès son accession à la présidence de la Fédération Mauritanienne de Football, coach Lamine, en 2011, ça fait quand même presque 10 ans, hein, bientôt 10 ans, il a décidé de relancer le championnat national et de le structurer. Mmh. Et ce qu'il souhaite apporter en fait au sein de la Confédération africaine de football, c'est un petit peu ça, c'est essayer de structurer un petit peu la Confédération africaine de football. Les championnats le sont, mais apporter un petit peu sa touche et notamment son carnet d'adresses qu'il a pour ainsi dire éventuellement attirer des investisseurs et des partenaires qui pourraient apporter énormément de moyens financiers pour pouvoir développer encore le football africain.
En tout cas, ce qu'on lui reproche un peu, ouais, c'est le fait que c'est déjà sa jeunesse, hein, c'est quelqu'un quand même qui
44 ans,
donc à quelqu'un à qui on ne voit pas d'un bon œil donner les destinées de la Confédération africaine de football, d'autant plus qu'il vient d'arriver dans le système.
Ouais.
D'autre part, ouais, on le considère, comme vous l'avez dit, Hakim,
proche de Ahmad Ahmad,
même si lui revendique le fait qu'il ne soit pas le plan B de Ahmad Ahmad. On lui reproche aussi le fait d'être trop proche d'Infantino de la FIFA.
Ouais.
Donc tout ça, ce sont des reproches qui font que aujourd'hui, on est en train de se poser la question. Mais on va aller du côté de Jocelyne pour avoir une idée, elle, de ce qui se trame ou ce qui se dit du côté de la Fédération, ouais, béninoise de football. Savoir, parce que si Ahmad, comme Yahia dit, lui, qu'il a le soutien de la Mauritanie, bien sûr, en tant que pays, de l'Ouganda, du Mali et de Djibouti. Donc, voilà. Est-ce que du côté du Bénin, Jocelyne, nos amis de la fédération ont déjà fait un choix ou pas?
Tout à fait, nos amis de la fédération ont fait un choix et leur choix s'est porté sur Jacques Hanouma, l'ancien président de la fédération ivoirienne de football. Donc le choix béninois, c'est Jacques Hanouma. Ce n'est pas un secret de police.
C'est un bon choix.
À ce banc, la Côte d'Ivoire n'est pas très loin du Bénin et puis on a vu quand même en peu de temps ce que Jacques Hanouma a fait pour le sport en Côte d'Ivoire. Du coup,
ouais,
le choix, il s'est porté voilà, sur le candidat ivoirien.
Mmh. Intéressant.
Oui, intéressant. Donc, c'est un bon choix.
C'est une information.
C'est par rapport à ce que j'ai vu aussi. Donc,
ouais. Mmh. Et qu'est-ce qui se murmure du côté du pays, Jocelyne Senahoun, par rapport justement à ces élections, et notamment tous ces candidats au niveau des supporters du ballon rond africain? Qu'est-ce qui se dit, mais notamment aussi à travers la presse, qu'est-ce qui s'est murmuré, qu'est-ce qui s'est dit exactement à travers cette élection pour la Confédération, pour la présidence de la Confédération africaine de football?
Bon, pour cette élection de la Confédération africaine de football, comme je vous l'ai dit, le choix béninois, il est connu, c'est Jacques Hanouma. Mm-hmm. Mais bon, après tout, les choix restent quand même personnels. Donc, il y a d'autres qui penchent pour le président sénégalais de football, Augustin Senghor. Il y a d'autres qui ont un penchant pour celui de la Mauritanie. Mm-hmm. Mais quand même, en général, le choix,
la tendance,
c'est
ouais,
Jacques Hanouma. Mm-hmm. C'est Jacques Hanouma, voilà.
En tout cas,
oui. Bon, par rapport à ce qui se murmure, il n'y a pas grand-chose. Le choix, il est connu, c'est Jacques Hanouma.
En tout cas,
ouais, parce que et souvent en Afrique, on annonce comme le président de la Confédération sud-africaine, on pense qu'il est milliardaire. Donc, milliardaire. Ouais, c'est pas parce qu'il est milliardaire que. Ouais, c'est pas une compétence, être milliardaire.
Non.
Moi, en tout cas, j'aurais voté Anjorin. Anjorin.
C'est ça, oui. Donc, Jocelyne, donc, lui, il est en train de me faire parler, donc j'ai aucune envie de parler. Donc,
Et Jocelyne, que pensez-vous d'une voix féminine? Est-ce qu'on aurait pu avoir effectivement cette femme qui dirige avec professionnalisme et avec assiduité l'AS Vita Club, la nouvelle présidente de ce club congolais. Est-ce qu'on aurait pu avoir une femme justement qui s'exprime à ce sujet et qui puisse notamment poser une candidature? Qu'en pensez-vous, Jocelyne?
Bon, l'idéal aujourd'hui, c'est de voir les femmes quand même s'impliquer beaucoup plus dans la chose sportive, ouais. C'est de voir les femmes aux grandes instances de décision et tout. Ouais. Mais pour le moment, je pense qu'on n'en est pas là parce que ouais. Il faut déjà faire décoller le football africain, le faire avancer. Et puis après, bon, une femme pourra diriger. Pour le moment, je pense qu'il va falloir laisser les hommes parce qu'ils s'y connaissent mieux. Bon, ça, c'est personnel, hein.
Mais c'est pas faux.
Nous devons travailler, il avait dit, nous devons travailler pour trouver des nouvelles sources de revenus pour la CAF. Si je suis élu, je vais œuvrer pour accroître le soutien aux fédérations. Ouais. Grâce à de nouvelles idées, j'ai multiplié par 20 les revenus de ma fédération. Je ne promets pas de multiplier par 20 les revenus de la CAF, mais je vais faire en sorte de les augmenter sensiblement. C'est une déclaration, bien sûr,
du milliardaire.
Ahmad Yahya, ouais. Président de la Mauritanie, candidat à la Confédération africaine de football. Restez avec nous, messieurs, on va marquer une pause et on revient tout de suite.
Plein feu sur les championnats africains, sur Africa.
Sur la radio africaine, bien sûr, Paris 107.5, Abidjan 91.1, Brazzaville 94.5, DAB+, Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, messieurs. Si vous avez envie de nous appeler, WhatsApp 33 7 66 19 77 69 et le standard 331 33 1 55 07 58 00 avec le doyen Willy Dorkono, avec Hakim Djelouad et bien sûr avec Jocelyne depuis le Bénin. Messieurs, c'est la première fois que l'accession à la tête de l'instance suscite tant d'engouement, démontrant une fois de plus que le football africain uni, ouais, plus que le placé ou moins uni que plus que le passé.
Non, là c'est uni, on le sait, mais le problème, la chance qu'on a, c'est que on a beaucoup de gens compétents sur le continent qui peuvent briguer à la première place de la confédération.
Ouais, actuellement, en tout cas, vous êtes d'accord que avec moi pour l'instant que se prononcer sur les chances de chacun des candidats. Parce que pour pouvoir remplir les conditions, alors écoutez-moi bien, parce que ça c'est important, pour pouvoir remplir les conditions de candidature dont l'une exige que chaque candidat puisse justifier le parrainage d'au moins 3 associations membres, y compris celles de son pays. Donc Anouma, pour le moment, d'après ce que nous dit Jocelyne, il y a le Bénin,
ouais.
Il y a la Côte d'Ivoire,
ouais.
Donc a priori s'il a
un troisième
ouais. Il est apte à se présenter à la
pays également sur cette zone-là aussi, hein, qui.
Mais bien sûr, parce qu'au niveau de ces zones-là, bon, Ahmad lui disait qu'il avait 46 confédérations, il avait 46
présidents,
associations, alors que au niveau de la zone 6, c'est la zone COSAFA.
Ouais.
Il y a quand même le Patrice Motsepe dont on va parler, qui regroupe 14 pays d'Afrique. Du Sud, l'Angola, le Botswana, le Comore, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Zambie et Zimbabwe. Tandis que Jacques Onoma, lui, il est de la zone Ouest,
ouais.
B, Ufoa, qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Ghana, le Niger, le Nigeria et le Togo. Et enfin, le Mauritanien Ahmed Yahya sera le porte-drapeau de la zone A, Ouest A, qui regroupe le Cabo Verde,
ouais.
La Gambie, la Sierra Leone, la Mauritanie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal et enfin le Libéria. Mais si on doit parler rapidement de Patrice Motsepe, il est né en 62 dans le township de Soweto, près de Johannesburg. Son père, Kosi Augustine Motsepe, est issu d'un clan royal de la tribu Zwana, mais tient une petite boutique, une spaza shop, à la fois épicerie et débit de boissons, près de Pretoria. Donc, ce qu'on peut dire sur lui, c'est que c'est un ancien président du patronat sud-africain. Il a 56 ans et il est le beau-frère de Cyril Ramaphosa, le nouveau président de la République.
Ouais.
L'une des sœurs Bridget est mariée à Jeff Radebe, éminent dirigeant du Parti communiste et ministre de l'énergie. Donc, messieurs, vous avez en tout cas les profils des différents candidats. On sait que là, ce qui est difficile actuellement à accepter, c'est le fait qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y ait trois candidats. Et par rapport à ce débat-là, je voudrais justement avoir votre avis et savoir, avec ces trois candidats-là, est-ce que ce n'est pas la division de la Confédération africaine de football et avec l'appel de Jacques Anouma qui demande à l'unité pour une seule candidature de l'Afrique de l'Ouest, on en finit avec ce débat.
Oui, mais il a raison de demander ça, parce que la COSAFA, je sais comment ça fonctionne là-bas, on a vu, et je n'ai pas trop envie. Parce que quand on voit Ahmad s'est appuyé sur la COSAFA pour faire quelques coups. Donc la COSAFA, moi, je n'ai aucune confiance. Donc il faut que l'Afrique de l'Ouest serre les coudes et choisisse un seul candidat et donc, pour vous, affronter
les autres. Et donc vous seriez pour Jacques Anouma.
Jacques Anouma.
Hakim ?
Alors moi, je n'ai pas du tout de préférence, coach Lamine, en étant objectif et journaliste, et bien sûr en travaillant sur ce dossier avec toute l'équipe de Tout Feu Tout Foot. Ce qui m'a paru intéressant, coach Lamine, c'est que on ressent, en tout cas par rapport à la dernière élection en fait à la présidence de la Confédération africaine de football, aujourd'hui on ressent en fait une véritable synergie, un véritable engouement autour de cette élection. Pourquoi ? Parce que déjà, on a Ahmad Ahmad qui a été suspendu 5 ans au moment où il a, enfin juste après qu'il ait postulé, qu'il voulait effectivement briguer un second mandat, ce qui ne lui a pas été effectivement favorable, puisque ça l'a un peu décrédibilisé, coach Lamine, ce second souhait de deuxième mandat. Ensuite, on a effectivement la surprise d'avoir des proches d'Ahmad Ahmad qui ne se disaient pas intéressés par la présidence de la Confédération africaine de football qui se sont présentés finalement et qui ont présenté leur dossier. Ça a été envoyé directement, hein, notamment un de ses proches compagnons, Ahmed Yahia, le Mauritanien. Mais surtout, ce qui est intéressant, coach Amine, c'est qu'on a différents profils dans ces candidats. Quand on voit effectivement le Sud-Africain Patrice Motsepe, pardon, issu de la zone COSAFA, donc avec l'Afrique du Sud, bien sûr, l'Angola, le Botswana, Comores, Eswatini, etc. C'est un profil en fait assez différent, par exemple, de Jacques Anouma, qui lui a travaillé dans le domaine de la politique. Il a servi effectivement la présidence de la Côte d'Ivoire, le pays. Il s'est occupé des finances du pays. Ensuite, il a travaillé effectivement dans le domaine du football pour pouvoir redorer le blason et monter les valeurs du football ivoirien grâce notamment à ses deux qualifications, coach Lamine, en Coupe du Monde, sous son mandat. Donc, il a fait des choses au sein de la FIF.
Mais vous n'êtes pas... Vous ne prenez pas parti.
Non, je ne prends pas parti. Et voilà. On a effectivement cette jeunesse d'un point de vue... présidentiel, donc à Ahmed Yahia qui se présente en tant que candidat jeune qui souhaite apporter un petit peu de la nouveauté, de l'innovation à travers ses contacts, son réseau, mais notamment aussi sa façon de faire. D'accord. Donc c'est vrai que on a une espèce de candidature intéressante avec des profils différents qui va offrir peut-être une élection totalement différente de celle qu'on a vécue par le passé, coach.
Ok, alors Jocelyne, un choix personnel pour vous, pas un choix de la fédération, vous en tant que journaliste, vous voyez qui ?
Bon, en tant que journaliste, je vois Jacques Anouma parce que c'est celui que je connais mieux parmi toutes les candidatures, parmi tous les autres candidats, pardon. C'est celui dont je maîtrise le profil. Les autres, je ne les connais pas vraiment. C'est vrai que j'ai écouté le cahier de charge et tout, mais mon choix reste quand même celui de la fédération. Pour moi, c'est Jacques Anouma parce que quand même, je connais le monsieur, pas personnellement, mais déjà pas ses actes, pas tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire en tant que président de fédération ivoirienne de football. Et bon...
Et à l'UFOA aussi.
Tout ce qu'il fait pour le football africain.
Voilà.
C'est celui dont je suis proche, voilà.
Donc finalement, vous ne voyez pas le candidat sénégalais parce que vous avez perdu contre le Sénégal. Bon. Ça, c'est pour rigoler.
Mais je n'ai rien contre le Sénégal. Oh, wow. En plus, le football sénégalais, il émerge. Donc, je n'ai rien contre. Juste que Jacques Hanouma, voilà, lui, je mettrai son profil. C'est celui que j'ai à côté parce qu'il est juste là en Côte d'Ivoire. Donc, il y a la proximité aussi. Et puis, bon, en dehors de ça, c'est ce qu'il a fait pour le football.
D'accord. On va donc fermer le volet de ces candidatures de la Coupe d'Afrique des Nations et enchaîner avec vous, bien sûr, la Coupe de l'UFOA. Hakim, est-ce qu'on a quelque chose à dire par rapport à la Coupe de l'UFOA et Jocelyne ?
Oui, alors la Coupe de l'UFOA, elle a été suivie par Jocelyne Senahoun, donc du côté, effectivement, du Bénin. Et il s'en est passé des choses que tu as mises avec pas mal de surprises dont Jocelyne nous avait partagé ces surprises footballistiques la semaine passée, mais notamment la semaine d'avant, puisque ça avait commencé assez tôt. Et où est-ce qu'en est la compétition, Jocelyne Senahoun, de la compétition de l'UFOA du côté du Bénin?
Bon, la compétition se poursuit. On a fini les phases de poule. Et à partir de demain, la compétition va aborder les demi-finales. Donc, pour les affiches, nous avons Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Et puis, dans l'autre affiche, il y a le Ghana qui sera face au Niger. Et dire que dans le groupe A, c'est le Niger qui est arrivé en tête avec 5 points, suivi du Burkina Faso. Le Bénin a été éliminé suite à son match face au Burkina Faso. Eh bien, le Bénin totalise 3 points, mais éliminé. Et puis, le Togo est dernier du groupe A avec 2 points. Dans l'autre groupe, bon, comme le Bénin, le Togo...
Oh, mais Jocelyne, pourquoi vous rigolez?
Ah non, c'est Lamine qui rigole.
Ils sont jamais loin l'un de l'autre. Donc, le Bénin est 3e et le Togo 4e dans le groupe A. Dans le groupe B, on retrouve en tête la Côte d'Ivoire avec 4 points. Et puis le Ghana vient en 2e position, 3 points. Les deux sont qualifiés. Puisque dans ce groupe, ils ne sont que 3. Le Nigeria éliminé, 3e donc, avec 1 point. Et puis, voilà, la compétition va se poursuivre avec cette demi-finale-là. Dire déjà que le Bénin, pays organisateur, a été éliminé en phase de poule, n'a pas pu franchir la deuxième étape, qui est celle des demi-finales. Le Togo également a été éliminé.
Mais vous l'avez déjà dit. Voilà.
Je le dis, en fait.
Mais non, mais...
Il est triste.
Ça fait 4 fois qu'elle répète ça.
Il est triste. C'est une information. C'est important de souligner.
Ouais, mais ça fait 4 fois qu'elle répète la même chose.
Mais non, mais ce qui est marrant, c'est la prestation du Niger. Le Niger, ils en ont rien à foutre de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais concernant l'UFOA,
c'est
leur Coupe d'Afrique des Nations.
Mais c'est la Coupe d'Afrique des Nations du MENA.
C'est la Coupe des jeunes.
Le MENA.
Non, pas le MENA. Le MENA du Niger, il rigole pas avec la Coupe de l'UFOA.
Ouais, mais vous imaginez que le Niger premier de son groupe.
C'est une compétition. Ouais, ouais.
Mais c'est important pour le football africain.
Il faut rappeler qu'il faut une petite précision. Le Burkina et le Niger étaient à égalité parfaite à tous les niveaux. Du coup, il y a eu un tirage au sort qui a désigné le Niger premier. Donc, le Burkina et le Niger, ils avaient le même nombre de points, égalité parfaite, bon, à tous les niveaux. Et puis bon, finalement, suite à un tirage au sort, c'est le Niger qui a été désigné premier du groupe.
Quel est le niveau actuellement de cette Coupe de l'UFOA?
Ben, le niveau, on peut dire quand même que c'est un niveau qui monte à chaque fois, puisque actuellement, les équipes de part et d'autre s'équivalent. Juste que, bon, au fur et à mesure que la compétition évolue, on se rend compte en fait qu'il y a des équipes qui tiennent. Et puis les équipes qui ne tiennent pas du tout. Quand je prends l'exemple du Bénin, il faut dire que ça fait 9 mois qu'on est sans championnat. Du coup, ouais. les joueurs n'ont pas pu tenir la compétition.
Tout à fait.
Mais ouais, mais.
Mais
Jocelyne, ça doit être le même cas au Burkina Faso et au Niger et au Togo.
Non, le Burkina a un championnat.
Le Burkina a son championnat.
Et au Togo.
Le Togo n'a pas de championnat comme le Bénin. Donc je pense qu'en matière de sport, ça ne ment pas.
Oui.
Puisque les autres sont en compétition,
ils
sont
en jambes.
Donc les résultats sont là. Ouais. Et puis les pays en fait, qui ne sont pas en compétition ont été tout simplement éliminés. Oui. Exemple du Bénin, exemple du Togo.
Non, mais
ils n'ont pas de championnat depuis l'avènement de la Covid.
Jocelyne, on a parlé d'engouement important, notamment vis-à-vis du public, même si effectivement il y a encore des mesures sanitaires strict, mais on a senti effectivement qu'il y avait une vraie ferveur autour de la compétition, notamment avec du public qui s'est déplacé du côté des stades.
Tout à fait, tout à fait. Vous savez, le football, déjà, ça draine du monde. Et puis, quand il s'agit des catégories d'âge, eh bien, on n'est pas étonné de voir le public parce que, quand même, la relève passe par là. Si aujourd'hui, on a une équipe A, une équipe senior bien en place et tout, ça passe par les catégories d'âge. Donc, toutes les fois, quand il y a déjà du football, il y a du monde. Et quand il s'agit des catégories d'âge, ne soyez pas étonné qu'il y ait encore plus de monde. Malgré l'avènement du Covid, les gens, quand même, sont très passionnés quand il s'agit de football. Donc, spontanément, ils se déplacent vers les stades pour aller voir les matchs, pour soutenir les leurs.
Rappelez-nous, ça s'est joué où ? Ça s'est joué à...
Du côté de Porto Novo.
De Porto Novo.
À Porto Novo, la compétition... Oui, la compétition se joue au stade Charles de Gaulle de Porto Novo parce que le stade de l'amitié de Cotonou est en réceptionnement, donc il n'est pas disponible pour le moment. Mais simultanément, quand il y avait les matchs, les derniers matchs, la dernière fois, pour les derniers matchs de poule là, on a joué à Porto Novo et à Cotonou, mais sur le stade de René Pleuven à Akwapa.
Ouais, d'accord.
Aucun match ne se joue au stade de l'amitié parce que le terrain n'est pas disponible, il est en réfectionnement.
Ouais, ça fait combien de temps qu'il est en réfectionnement? Ça fait un an au moins?
Oui, ça fait plus d'un an quand même.
Des stades que je connais bien. Donc,
Moi, ce que je trouve intéressant, Woody Darkounou, coach Lamine Badiane, par rapport à ce que nous partage Jocelyne Senahoun, c'est que, effectivement, même si on n'a pas un championnat pour le moment qui a repris ses droits dans certains pays, il y a quand même effectivement de la compétition et c'est très important pour ces sélections, coach Lamine, de participer à un tournoi de l'UFOA pour rester en jambes, mais notamment aussi pour pouvoir participer à d'autres compétitions par la suite. Parce que même si on est en période de pandémie, il y a de la compétition.
Les gens jouent, les gens jouent.
Et c'est important.
C'est très important d'avoir de la compétition. Le problème de l'Afrique, souvent, c'est la compétition. On a vu. Comment. Un athlète qui n'est pas en compétition, il peut pas être bon. C'est la compétition qui fait le joueur. Donc un joueur qui ne joue pas, il n'est pas un joueur.
Donc ça veut dire que tous les joueurs des agoutis,
des écureuils
justement. Ouais. Donc on les ramène toujours. Ce sont des joueurs externes. C'est ça le problème.
Dans ces pays où il n'y a pas de compétition, c'est-à-dire que c'est des joueurs que les centres de formation prêtent à la sélection. Ouais. Et ce n'est pas sérieux parce qu'il n'y a pas une compétition de jeunes. Mmh. Il faut une compétition de jeunes pour que les jeunes soient en jambes, pour la relève aussi.
Mais comment s'est effectuée la sélection du Bénin?
La sélection du Bénin, elle a été effectuée déjà par des joueurs qu'on a pris dans les centres de formation, beaucoup plus dans les centres de formation. Donc, il y a le centre APJ de Michael Poté, qui est à Cotonou, qui a donné quelques joueurs. Mm-hmm. Et puis, de part et d'autre, quand même, la majorité, les joueurs viennent des centres de formation et de quelques joueurs du championnat. C'est vrai que le championnat ne l'est
pas. Il n'y a pas eu de joueurs de Abi. Il n'y a pas eu de joueurs de Abi, notre ami Abi.
Je ne sais pas trop, je n'ai pas eu d'écho concernant des joueurs d'Abi, mais je sais qu'il y a des joueurs de l'Académie Poté qui sont dans la sélection.
Jocelyne, est-ce que Michel Dussuyer a observé ces rencontres pour justement regarder un petit peu de près comment se fait l'évolution de ces jeunes joueurs qui évoluent soit en centre de formation, soit en équipe première d'un club senior professionnel?
Exactement, il est tout le temps au terrain quand il y a match, surtout quand le Bénin joue. Et même quand ce n'est pas le Bénin qui joue, Michel Dussuyer, il fait tout le temps le déplacement. Il faut quand même voir les...
Il est à la piscine.
Il est à l'affût.
Il est au stade toutes les fois qu'il y a match. Et surtout quand c'est l'équipe nationale béninoise qui joue, il est présent. Et puis voilà, il suit tout de près avec beaucoup d'intérêt parce qu'il y a certains joueurs de cette sélection-là à qui il avait déjà fait appel, pour étoffer le groupe A. Donc voilà, il est tout le temps au terrain.
Ouais. On a également la présence du...
Il y a un Béninois du nom de Chabel Gomez qui déjà a été... convoqué avec l'équipe A. Et puis ce joueur-là dit qu'actuellement, c'est le meilleur joueur du tournoi parce qu'il a, c'est celui qui a marqué d'ailleurs le doublé face au Togo. Il a à son compte 2 buts et il reste quand même le meilleur buteur pour le moment de la compétition.
Ça, c'est une bonne chose, coach Tamine, parce que c'est comme le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. Ça reste effectivement une vitrine pour les sélectionneurs et les entraîneurs, coach Tamine.
Ils ont joué contre le Togo.
La U20 représente la relève. Donc et tout le monde sait que le monsieur Gomez, c'est l'un des meilleurs joueurs de la compétition.
Bien sûr,
Ouais, mais moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que Jocelyne répète tout le temps la défaite du Togo. qui fait que...
Je veux aussi rappeler que c'est un ancien joueur de EZAE, EZAE qu'on ne présente plus.
Qui a été éliminé par le Sénégal.
Ouais, qui a participé à la compétition continentale de club.
Voilà, tout à fait. Actuellement, il est avec la réserve de Amiens, donc il est venu pour la compétition de l'UFOA. Il s'est déplacé
C'est une bonne chose.
Merci. Vous avez quelque chose à ajouter, Jocelyne?
Non, pas grand-chose. Dit que demain, déjà, la compétition va aborder les
demi-finales. On aura à cœur de...
Le rendez-vous.
Donc, rendez-vous semaine prochaine pour nous donner tous les ingrédients de cette finale où il n'y a ni le Bénin, ni
le
Togo.
Oui, puisque la finale, c'est le samedi prochain, samedi 19. Donc, la semaine prochaine, je vous reviens avec toutes les informations au complet.
Bien sûr.
Merci beaucoup, Jocelyne Senaou.
Okay, juste une dernière question. Bénin, Togo, qui a gagné?
C'est le Bénin 2-0. Et puis Willy Dorque, nous, la dernière fois, il avait fait un bon pronostic. Il a pronostiqué 2-0 pour le Bénin. Moi,
exactement.
Oui, parce que je connais très bien les deux footballs.
C'est Willy qui l'a emporté.
Oui, parce que je connais très bien les deux footballs. Je connais très bien les deux footballs et je vais sur place pour bien les voir de près.
Merci, Jocelyne.
Plein feu sur la Liga, sur Africa.
Sur Africa, bien sûr, Africa Radio, Paris 107.5, Abidjan 91.1, Brazzaville 94.5. Si vous voulez nous appeler, donc au standard 33 1 55 07 58 00, ou nous laisser un message sur Facebook / tout foot. Mais monsieur, on va parler de l'Espagne. Bon, alors, les résultats et le classement, monsieur Hakim.
Alors, coach Lamine, la 13e journée s'est jouée et beaucoup de surprises ont eu lieu la semaine dernière. Ça a commencé le 11 décembre avec cette victoire de Valladolid 3-2 face à Osasuna. Valence a reçu l'Athletic Club et ils ont fait 2-2. C'est Getafe qui a perdu à domicile face au FC Séville 1-0. Huesca s'est imposé à domicile 1-0 contre Deportivo Alaves. Le Real s'est imposé face à son voisin l'Atlético Madrid 2-0. La Real Sociedad qui reprend les rênes, coach Lamine, du championnat et premier du classement pour le moment. Real Sociedad qui fait un très très bon début de saison. 1-1 face à Eibar, elle était tenue en échec. Betis Séville 1-1 avec Villarreal. Elche s'est incliné face à Granada 1-0. Et Barcelone s'est imposé 1-0 face à Levante. Dernier match qui a eu lieu le 14 décembre aujourd'hui. Et c'est Celta Vigo qui s'est imposé face à Cadix 1-0. Et on va vous donner ce fameux classement. Real Sociedad qui reprend les rênes du championnat, coach Lamine, espagnol. Premier avec 26 points, accompagné de l'Atlético Madrid, 26 points à la différence de but. Moins 2 pour l'Atlético Madrid. Real Madrid 3e de ce championnat Liga espagnole, Villarreal 4e, FC Séville 5e. Il faudra voir tout simplement un petit peu plus bas pour voir le FC Barcelone à la 8e place. Et on rappelle au dernier du classement, Osasuna 20e, Huesca 19e, Levante 18e.
Alors messieurs, une question par rapport à Hakim et Doyen Willy. Est-ce que vous pensez en ayant remporté le match face à l'Atlético, le Real va remporter la Liga?
Le Real a le moyen de remporter la Liga simplement parce qu'ils ont des joueurs pour. C'est-à-dire qu'ils ont des joueurs qui ont tellement confiance en leur coach qu'ils peuvent se sacrifier pour leur coach. C'est ce qu'on a vu depuis longtemps. C'est pas,
oui,
c'est pas
nouveau. Il y a un moment donné, on a vu.
Ouais, mais ils le font.
Zidane complètement. Zinedine Zidane complètement dans la tourmente.
Ouais, on a même parlé de
Pochettino pour venir remplacer Zidane.
Oui, mais
et donc tout d'un coup, on voit une équipe du Real qui pourrait remporter, qui a battu quand même la meilleure défense, l'équipe qui avait la meilleure défense
tout et
l'équipe
fait.
Qui
était. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est-à-dire
donc
que
ça veut dire que quelque part, cette équipe du Real peut.
Ils ont les moyens. C'est ce que je dis. Ils ont des joueurs pour. Et il y a une confiance terrible entre le coach et les joueurs. Et
il faut rappeler, coach Lamine, Woody a raison de le dire, c'est-à-dire il y a le Real a les moyens, coach Lamine, psychologiques, les moyens, bien évidemment, structurels d'un point de vue sportif. Il y a effectivement un banc du côté du Real, même si on a des blessures récurrentes de Eden Hazard qui reviennent et qui nous montrent que il y a un recrutement qui n'a pas été effectivement bon, mais Zinedine Zidane fait effectivement une semaine parfaite, on le rappelle, victoire et qualification en Ligue des Champions, ce qui leur permet derrière de partir exactement, premier de leur groupe, et ce qui leur permet, coach Lamine, de repartir avec un mental d'acier en championnat et de battre qui ? De battre un des prétendants du titre de la Liga espagnole, l'Atlético Madrid, 2-0 du côté de Madrid. Et je pense que c'est un Real qu'on a peut-être enterré un peu trop vite,
oui.
Notamment au niveau des médias, coach Lamine. C'est un Real Madrid que l'on a enterré un petit peu trop vite, mais qui a des ressources et qui l'a montré en Ligue des Champions, en se qualifiant et en étant premier de son groupe, comme l'a souligné Woody, mais notamment en tapant et en battant un des prétendants du titre, l'Atlético Madrid, 2-0 en championnat. Ça, je trouve que c'est vraiment une des recettes de Zinedine Zidane, d'avoir ces ressources-là, coach Lamine, d'un point de vue psychologique, de ressouder le groupe, l'effectif,
ouais.
Et comme le disait Willy la semaine dernière sur le plateau, de faire en sorte que le groupe, eh bien, travaille ensemble.
Mmh. Ouais, en plus il y a le lien de confiance qu'il y a entre les joueurs et Zidane. C'est ça qui est important, parce que ça fait des années aussi, bientôt.
Chaque fois qu'on
met en danger le poste de Zidane, et on voit qu'il y a un réel.
Il ne faut jamais l'enterrer, Zinedine Zidane. Il ne faut jamais l'enterrer. Et beaucoup les médias font cette erreur, font cette faute. Que ce soit des médias, effectivement, du monde entier, coach Lamine, ou de la presse espagnole, ou de la télévision radio hispanique. Souvent, effectivement, on essaye de faire un peu comme les tabloïds anglais, coach Lamine, en essayant d'enterrer.
Oui, mais tu sais pourquoi ?
Mais c'est normal, il faut qu'on fasse de la sensation.
Mais, ouais, mais c'est normal, mais les gens oublient les relations qu'on peut avoir entre ce genre de coach et les joueurs. Parce que quand je dis ce genre de coach, c'est-à-dire Zidane n'est pas un coach à la légère comme ça. Zidane est un phénomène, c'est un nom. Et que ces joueurs-là ont vu évoluer. Donc, pour eux, c'est un exemple qui est à leur tête. Donc, à chaque fois qu'il est en danger, ils viennent sauver le coach.
Jusqu'à quand ?
Mais ils le font. Ça fait longtemps qu'ils le font.
Bon, d'accord.
Okay. Pour l'instant, c'est trois victoires face à trois belles équipes, coach Lamine. Une, c'est le FC Séville. La deuxième, Manchester Gladbach. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, la meilleure défense de la Liga, l'Atlético Madrid, l'invincibilité de l'Atlético qui faisait ses preuves. Et là, le Real Madrid qui fait tomber l'Atlético Madrid en championnat 2-0. C'est une bonne chose et c'est une bonne semaine pour le Real Madrid. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de critiques, effectivement. Il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé par rapport à l'avenir de Zinedine Zidane, mais non, ouais, Zidane, ouais. Faut pas l'enterrer,
ouais,
et il l'a montré de la plus belle des manières.
On a compris. Barcelone, alors rapidement, en une minute, on a compris. Doyen, Barcelone, donc, qui gagne 1-0,
ouais.
Une petite victoire, mais une victoire importante, même ouais. Si Barcelone, au niveau de son classement, au niveau de la Liga, est encore dans les profondeurs, si on peut dire.
Oui, le Barça souffre, ce qui est normal, parce que ce sont les mêmes joueurs qui évoluent depuis longtemps. Donc, et physiquement, c'est difficile pour les joueurs parce que trois matchs par semaine, ça fait un peu trop. Ouais, donc, comme on dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne, mais à force, les joueurs, ils sont émoussés.
D'accord, on va faire une pause, on revient tout de suite.
Plein feu sur la Première Ligue, sur Africa. Can't pass the people, can't
pass the hitman. Et nous commençons bien sûr sur Africa Radio avec le derby Manchester City-Manchester United. Qui sait, messieurs, résultats et commentaires.
Oui, alors on va rappeler peut-être les résultats, Coach Lamine, de la 12e journée. Vous l'avez dit, Manchester United contre Man City, son voisin. C'était vraiment un match intéressant, même s'il n'y a pas eu de but. 0-0, Coach Lamine. Dans les autres rencontres, rapidement, juste pour revenir sur cette 12e journée de Premier League, Leeds United s'est incliné à domicile face à West Ham 2-1. Wolverhampton s'est incliné également à domicile face à Aston Villa 1-0. Newcastle s'impose 2-1 face à West Bromwich Albion. Everton s'impose face à Chelsea, Coach Lamine, 1-0. Southampton 3-0 face à Sheffield United. Crystal Palace, Tottenham 1 partout. Fulham, Liverpool 1 partout. Arsenal s'incline à domicile face à Burnley 1-0. Leicester s'impose 3-0 face à Brighton of Albion.
Alors, messieurs, bon, on ne va pas trop traîner sur le Manchester City, Manchester non. United, pas ouais. du tout. Mais je voudrais vous poser juste une question concernant un peu Liverpool. Liverpool qui est donc premier ex aequo avec Tottenham,
ouais.
mais qui est à la peine par rapport à sa défense. On voit que quand même les joueurs ouais. sont fatigués.
Ouais, fatigués.
On a l'impression d'avoir toujours les mêmes joueurs, la même attaque, les mêmes ouais. joueurs qui jouent avec toujours Sadio Mané, Mohamed Salah. Ouais. Je vous dis, ça ne change pas trop. Est-ce que ça ne risque pas de poser un problème à Liverpool dans ouais. la durée, étant donné que quand même, ils sont sur trois fronts, la Ligue des Champions, le championnat, et puis ensuite, derrière, peut-être la Coupe aussi.
Oui, ça, quand ça va coincer sérieusement, il va essayer de changer parce qu'ils ont un bon banc. Et M. Klopp a toujours essayé de tourner.
Mais défensivement, il n'y a plus rien.
Mais ils ont perdu Van Dijk.
Ils ont perdu Van Dijk.
Ce n'est pas un joueur qu'on change du jour au lendemain.
Mais on a vu aussi une défense quand même assez fébrile.
Mais c'est normal parce que Van Dijk faisait, pour moi, faisait les 50% de ce club. Donc, c'est comme si le PSG perdait demain et Neymar. Donc Van Dijk, Van Dijk, c'est le socle de Liverpool. Donc Van Dijk absent, ça fait que le club n'est plus le même. Mm. Donc on peut tourner n'importe comment, il manque ce costaud de la défense.
Alors justement, Hakim,
coach Lamine, les champions en titre, ils n'ont pas su tirer profit, coach Lamine, de l'opportunité qui s'offrait à eux pour prendre la deuxième place de la Première Ligue. Ils ont pris un point, il faut le rappeler, seulement grâce à un pénalty inscrit et concrétisé par Mohamed Salah, l'Égyptien. Alors oui, il se hisse hein, au second rang du championnat après 12 journées. Mais il faut le rappeler, ils vont recevoir Tottenham. Ça sera mercredi, Coach Lamine.
Et ça va se jouer peut-être là, au niveau de la première place.
Mardi. Et il faut le rappeler, Coach Lamine, Jürgen Klopp peut encore dire merci à la VAR parce que l'arbitre principal a dû en fait demander effectivement assistance à son arbitre qui était sur la touche.
Mais
pour pouvoir revérifier. C'est un but et c'est par un. Ils marquent un petit but sur penalty face à un promu. Ça c'est important. Et là, on peut se dire effectivement.
Mais t'as vu comment le premier a défendu, surtout leur gardien de but.
C'est ça la première ligue. La première ligue, t'as vu tous les. Comment on appelle les super forts.
Ouais.
Ils ont été déstabilisés. On a vu Tottenham, on a vu Chelsea qui ont été déstabilisés. Donc, c'est ça le charme de ce championnat.
Mais moi, je voudrais revenir sur un club.
Ouais.
Qui au début nous avait vraiment bluffé et ouais. qui aujourd'hui est dans les profondeurs du classement. C'est l'équipe de Leeds
ouais.
hein, qui est à mon avis 14e il me semble. Je ne sais pas si vous regardez le champion, le classement. Alors qu'au départ, c'était une équipe qui mettait des buts à foison. D'un coup, on se rend compte que notre ami, l'entraîneur Bielsa, est en train de perdre pied.
Il paye cash leur engouement.
14e, coach Lamine, du championnat. Ils ont 14 points. Le dernier, il faut le rappeler, c'est Sheffield United avec un petit point. Et le 18e, c'est Fulham avec 8 points, coach Lamine.
Ah ben oui.
14e Leeds.
Ouais, mais le système Bielsa, il faut être préparé et avoir les moyens
de courir de tout
suivre.
Le temps.
Donc, les joueurs sont en train de. Parce qu'ils viennent de la Championship. Mm. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas le coffre pour te tenir. On a vu, hein, à Marseille aussi, il a eu les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'il faut avoir les joueurs pour ça. Peut-être qu'il n'a pas les joueurs, donc il craque.
Et Watford.
Ouais, Watford, on va le rappeler également.
Une équipe aussi qui, en début de saison, était intenable jusqu'au moment où, là, maintenant, on a l'impression qu'aussi, ils commencent à baisser pied parce que les autres sont en train de revenir.
Alors on va vous donner hein, les résultats. Alors, simplement pour revenir...
À Watford.
Ouais.
C'est une situation difficile par rapport aux différents clubs. On a vu Manchester City.
Watford est en premiership. Hein,
parce pas premiership Watford. Ouais. Watford sont en premiership, ouais. Coach Lamine. On parle peut-être de...
Non, l'équipe de... Je parle du club de Doucouré.
De Doucouré. Donc tu parles de Everton.
Everton.
Ouais, Everton qui se sont imposés à Chelsea à domicile face à Chelsea. 1-0, Coach Lamine, et pour le moment, et au classement.
D'une belle manière.
D'une belle manière, c'est important de le dire.
Donc, Doucouré et
Richarlison qui a chuté sur la pelouse d'Everton, en ayant observé un petit peu le résumé, Coach Lamine, le week-end dernier. Ils ont été battus sur une réalisation de Sir Gunson sur penalty en première période. Ils ont été solides, dangereux, ils ont bien contré.
Ouais.
Et Everton, eux, ils ont vraiment, moi ce que j'ai pu observer, Coach Lamine, ils ont parfaitement muselé les Londoniens de Frank Lampard.
Ouais.
Et ils ont vraiment très très bien joué leur coup, Willy Dorcoudou. C'est un peu pas un hold-up, mais presque.
Non, parce que le Brésilien Richarlison essaie d'empêcher les joueurs de Chelsea de sortir de la défense. Donc, comme c'est un joueur assez dangereux, donc on est obligé de rester autour de lui. Donc, ces joueurs de Everton, ils ont raison, ils ont le moyen de faire trembler un grand comme Chelsea.
Complètement.
Like, Chelsea, c'est un grand. Hein.
Chelsea, Coach Lamine, ils se sont inclinés à Everton pour effectivement ajouter ce que vient de partager Willy Dorcoudou dans son analyse. Chelsea s'incline à Everton, Coach Lamine à 1-0. Il faut le rappeler, c'est la première défaite de Chelsea depuis près de 3 mois en championnat. Mmh. Ouais. Depuis près de 3 mois. Avec notamment la recrue de l'international sénégalais, hein, le gardien de but qui était venu en provenance de Rennes.
Mendy. Messieurs, on va parler rapidement de la Ligue 1.
Plein feu sur la Ligue 1, sur Africa.
Bien sûr, quand on parle du championnat de France, on va bien sûr parler de PSG-Lyon, même si on aurait pu parler de Marseille-Monaco, une équipe marseillaise qui est en train de se maintenir dans son niveau, c'est-à-dire la Ligue 1.
Ils l'ont toujours fait. Ouais. Donc,
et avec ses moyens.
Avec leur héritage.
Mais parlons un peu du Paris Saint-Germain-Lyon, dont tout le monde parle.
Alors, il faut le rappeler, hein, Paris s'est incliné à 1-0 face à l'Olympique lyonnais. Coach Lamine, ça aurait pu être vraiment pire pour Neymar. On le rappelle, il est sorti sur civière. Alors, beaucoup disaient que. Prétendait qu'il allait en avoir pour un mois, deux mois, voire trois mois. Finalement il sera absent au chemin. Voilà, c'est ça, entre 10 et 15 jours.
Mais c'est la cheville. Mais il faut pas non plus penser que Mendes a été violent dans le match. Non. Ouais. Et l'homme du match.
Non.
L'homme de ce match, c'était Mendes. Donc, c'était un fait de match. Donc, ce qui est arrivé à Neymar, on n'a pas. Essayer de s'en prendre à Neymar pour éliminer le PSG. Non, le Lyon avait tout fait pour empêcher le PSG de
s'exposer. Ils ont très bien joué.
Mais
seulement, c'est en deuxième mi-temps qu'on les a vus quand même reculer. Donc, franchement, ça c'est.
Moi, je trouve, Coach Lamine, que les Lyonnais ont joué avec beaucoup d'envie. Ils ont joué avec beaucoup de plaisir. On les a sentis vraiment concernés. Ils remportent certes une victoire de prestige, c'est vrai. C'est vrai, c'est une victoire de prestige qui les met au premier plan, notamment avec l'autre équipe du Nord, sur la pelouse du Parc des Princes, grâce notamment à un but de l'international africain Karl Toko Ekambi.
Kadewere.
Ah, Kadewere, pardon, autant pour moi. Je pensais que oui, un but de Tino Kadewere, pardon. Après, ce qu'il faut aussi souligner, Coach Lamine, c'est que les Parisiens ont véritablement été déstabilisés et gênés par une défense solide des Lyonnais. Ils ont joué très très bien leur coup.
Mmh. Oui, mais ce qui a gêné les Parisiens, c'est que les Lyonnais étaient venus au parc pour faire trembler le PSG. Donc à chaque fois que des équipes de la Ligue 1 viennent au parc pour faire trembler le PSG, et le coup marche. Parce que le PSG, c'est un club qui est dans la facilité. Donc, quand ça se déroule bien, tout va bien. Mais le PSG en danger.
Quand ils sont contrariés,
on voit ces stars qui veulent régler le problème
tout seul.
Tout seul. On l'a vu. À chaque fois, c'est la même chose.
Et au classement, Lyon qui rejoint Coach Lamine, comme on l'a dit tout à l'heure, Lille en tête de la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui lui rétrograde à la troisième place. Et c'est une superbe opportunité pour Lyon.
Est-ce qu'ils sont notamment en
avec le décès de la disparition de Gérard Houllier qui a entraîné l'Olympique Lyonnais, à qui on pense bien évidemment.
Mais est-ce que le PSG aujourd'hui est en danger par rapport au championnat? Est-ce que vous pensez qu'ils iront au bout?
Ouais, ils iront au bout. On est en France, donc à chaque fois.
Et alors, on est en France.
Ouais, mais on est en France parce que les clubs donnent la victoire au PSG vers la fin. Donc, moi, je sais comment ça se passe.
Tu exagères là.
Mais je suis en train de faire. J'exagère un peu, mais c'est la réalité. Tu vas voir que vers la fin, c'est le PSG qui va gagner simplement parce que les autres n'ont pas envie de gagner.
On les regarde gagner.
Oui, comme donc, d'habitude.
Lille va laisser le PSG gagner le championnat.
Tu vas voir.
Monaco va laisser le championnat.
Mais c'est dommage, mais c'est ce qui se passe. C'est pas comme on n'est pas en Angleterre ni en Allemagne.
C'est un complexe. C'est un complexe.
C'est pas un complexe. J'ai même entendu des entraîneurs dire que on a perdu parce que c'est le PSG. On ne peut rien parce qu'ils ont tel budget. Or, le football sur le terrain n'a rien à voir avec le budget. C'est 11 bonhommes contre 11 bonhommes. Mais j'ai entendu beaucoup d'entraîneurs français dire qu'ils ont un budget qui nous dépasse.
Sur la possession du ballon, Coach Chami, c'est intéressant les statistiques de ce match. Toi qui voulais effectivement regarder de près cette rencontre, il y a 65% de possession de ballon pour le Paris Saint-Germain contre 35% pour l'Olympique.
Oui, mais c'est peut-être par rapport à la deuxième mi-temps.
Ouais.
Parce que sur la deuxième mi-temps, on n'a pas vu l'équipe de Lyon jouer.
Ouais.
Ils ont plutôt reculé. Et donc la
position. Mais ils sont à l'extérieur. C'est
mais quand on regarde au nombre de tirs, Coach Lamine. On en a un de plus pour Lyon. Ils se sont peut-être, alors je vais pas dire transcendés, mais ils ont peut-être plus cru en leur chance de marquer. Il y a, on le rappelle, 9 tirs pour Lyon, 8 pour le Paris Saint-Germain d'une manière générale sur les deux mi-temps, 5 tirs cadrés pour Lyon contre un seul pour le Paris Saint-Germain. Donc quelque part, c'est qu'on a, sur la précision du tir, on est à 56% contre 13 pour Paris, Coach Lamine. 56
oui,
pour Lyon.
Ce qui montre qu'ils sont venus pour battre le PSG.
C'est ça, ils sont venus vraiment avec une ferme intention de battre le Paris Saint-Germain et ils l'ont fait de.
Mais ils les ont contrariés, de toutes les façons, ont contrariés. C'est que quand vous avez une équipe du Paris Saint-Germain qui, à la limite, quelquefois se voit très très beau et qui, à la limite, voit que quand tu joues contre Lyon, c'était un match de trucs. Tu prends un classement qui n'est pas le véritable classement qui puisse inquiéter des équipes comme Lyon.
Ouais.
Une équipe comme Lyon, comme Lille, ce ne sont pas des sapeurs-pompiers.
Ah non,
hein, ils ont une culture de la bagarre. Je veux dire, bien sûr, c'est pas tu ne vas pas faire des matchs contre le Lyon en te disant je vais me friser les moustaches.
Ils ont une culture de la gagne, ces équipes-là.
C'est clair et net. Hein.
Non, et puis on a une ligne offensive, on en a parlé tout à l'heure. Bien sûr, le buteur Tino Kadewere qui marque ce but et que l'on voit monter en puissance de plus en plus. On l'a vu également en compétition Coach Lamine africaine. C'est un joueur qui est pétri de talent. Mais on a aussi Memphis Depay, Karl Toko Ekambi qui fait un gros boulot. Et je pense que cette équipe lyonnaise peut effectivement jouer les premiers rôles dans ce championnat.
Et Mendes, à son arrivée en Ligue 1, il était critiqué. C'est pour ça que je dis, à chaque fois que les gens critiquent les joueurs...
Ne laisse pas le temps.
Mais il faut tenir compte de la qualité intrinsèque du joueur, au lieu de dire les stats. Les stats, ce n'est pas ça qui fait le joueur. Le joueur a des qualités, c'est ce qu'il faut voir. On a vu un Mendes qui a survolé les débats hier.
Oui, c'est clair.
Ouais.
Et quid alors de l'équipe de l'Olympique de Marseille qui gagne sans convaincre?
Et comme d'habitude. Donc ils se sont donné une tradition là-bas de se battre pour gagner. Ils sont à une place. Quand je vois le classement, ça n'a rien à voir avec la façon dont ils jouent.
Mais ils peuvent être premiers. Ils ont deux matchs de retard.
C'est ce que j'ai dit. À chaque fois, ils nous font le coup. Ils étaient même en...
L'OM,
en finale d'une coupe européenne sans démontrer grand chose.
Moi, je suis content pour Marseille, coach Lamine, parce que c'est pas une équipe qui a les mêmes moyens que le Paris Saint-Germain ou d'autres équipes en Ligue 1. Alors c'est vrai, il y a des joueurs, il y a un effectif, il y a un coach qui est d'un standing quand même intéressant. Il était en première ligue, il a beaucoup appris, coach Lamine, en Angleterre, outre-Atlantique. Mais quand tu vois effectivement, comme le dit Willy, ce que réalise Marseille, faut le rappeler, coach Lamine, c'est la sixième victoire d'affilée pour les Marseillais.
Ouais.
Et même si effectivement en Ligue des Champions, ils ont déçu leurs supporters, en championnat, ils restent concentrés, ils sont présents.
C'est par rapport à leur niveau qu'ils ont, donc ils ne vont pas aller se promener dans la Ligue des Champions.
Revenir à un point du Paris Saint-Germain avec l'effectif qu'ils ont, moi sincèrement, je pense que c'est une bonne chose. Et Marseille est dans son... Voilà, elle est dans sa dynamique.
Ils sont à féliciter.
Sixième victoire d'affilée, exactement. C'est pas terminé, c'est pas fini, c'est vrai. On arrive à la fin de cette saison 2020. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire lors du prochain match en championnat, mais je pense qu'ils sont sur une bonne dynamique. Et l'entraîneur apporte aussi un souffle, une vraie.
C'est le lien de confiance qui a entre un coach et les joueurs. Donc c'est ce que j'expliquais par rapport au Real et ses joueurs, Zidane et ses joueurs. C'est la même chose que se passe au niveau de Marseille.
Il y a un entraîneur.
Et un coach qui essaie de booster les joueurs. Et ça marche. Parce que les joueurs de qu'on a à Marseille, même quand on voit le jeu de Marseille par rapport à leur place, c'est bravo pour Marseille.
Il faut quand même rappeler aussi le bon début de saison de Wissam Ben Yedder, même s'il perd contre Marseille, coach Lamine, ça reste un des attaquants bien en vue cette saison en championnat, notamment au niveau du nombre de buts qu'il a inscrit, coach Lamine. Et l'autre aussi joueur... Moi qui me plaît et dont je voulais parler, coach Lamine, c'est l'international congolais, c'est Kakuta, qui fait aussi un très très bon début de saison.
Gaël Kakuta à Lens,
coach Lamine.
Justement, je voulais qu'on parle justement de cette équipe lensoise, une équipe qui vient de monter et qui va se maintenir.
Ils ont tous les moyens de le faire, mais bravo à eux. Mais
toi, tu parles de Kakuta, moi je parlerai de l'avant-centre.
Mais il faut aussi parler de la culture de Lens. Ils ont une culture aussi de football ou de fighting spirit. C'est une équipe de la Ligue 1 française, mais qui a un esprit de la Première Ligue. C'est-à-dire qu'ils ont...
Il y a toujours eu cet état d'esprit, exactement.
Ouais, exactement. Donc, et bravo à eux.
Non, moi je pense que l'égalisation de Lens dans ce match, elle a été vraiment intéressante. Alors c'est vrai, ils perdent la rencontre, coach Lamine, au bout du suspense. Mais Gaël Kakuta qui avait égalisé à la 50e minute, j'ai l'impression en fait il est vraiment dans son rôle. Alors oui, c'est vrai, il a pris de l'expérience, c'est plus le petit Gaël Kakuta qu'on avait vu du côté de l'Angleterre à Chelsea où il jouait un petit peu avec timidité, on le sentait un petit peu, un peu timide, un peu réservé. Là, on sent vraiment un Gaël Kakuta plein, bien dans ses bottes, qui prend ses responsabilités et qui joue, quoi. J'espère que Lens va jouer le haut du tableau jusqu'à cette fin de saison parce qu'il mérite. Et avec le peu de moyens qu'ils ont, coach Lamine, ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment très très bien.
Alors, messieurs, on va parler, il nous reste 8 minutes, hein, 8 minutes pour parler un peu du tirage au sort de la Ligue des Champions, avec déjà une confrontation à la limite, on la voit chaque année, c'est PSG-Barcelone.
Oui.
Quelles sont les chances de chacune des deux équipes?
Mais les deux ont une chance, donc là, c'est le côté... Fighting Spirit qui va gagner, mais le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est-à-dire que le PSG
quelle est la situation de Barcelone aujourd'hui qui puisse faire croire aux gens que Barcelone peut l'emporter?
Si on pense
avec tous les problèmes qu'a le Barça, avec 40% pour les salaires des joueurs, avec une situation, avec le coach, ça ne va pas, avec les joueurs qui veulent partir. Il y a tellement de problèmes au niveau du Barça que peut-être la seule chose, c'est que c'est une des équipes qui, à la limite, a gagné au niveau des phases de poule 5 matchs et qui est toujours au rendez-vous quand il s'agit de la Ligue des Champions.
Oui, j'ai une bonne question. Mais si les joueurs et les dirigeants du PSG tiennent compte de ce que tu racontes, ils perdent.
Mais moi, je ne suis pas entraîneur du PSG.
Oui, mais je te le dis, si jamais ils tiennent compte de ça, ils perdent.
Ah oui,
ils ont intérêt, parce que parce qu'on a vu le jeu Barça sur le plan européen, parce qu'ils ont des joueurs pour. C'est ce qui se passe au niveau du Real aussi.
Ouais.
Donc, quand on a des joueurs qui ont le talent pour s'en sortir, même dans des moments difficiles, il faut faire attention à ces clubs-là. Donc, et si jamais le PSG va là-bas pensant que le Barça est amoindri, ils sont en danger.
Mmh. Alors, coach Lamine, il faut le rappeler, c'est un peu le même refrain que l'on voit. On a en fait effectivement un remake du match de 2017, coach Lamine, notamment la remontada.
Et là, ils vont y penser, là, joueurs.
Voilà.
Ouais, bon, il n'y a pas tous les joueurs qui ont participé à cette remontada. Ouais, je veux dire que Neymar était de l'autre côté aussi.
Il était l'acteur principal
de la remontada, effectivement.
Donc,
maintenant, effectivement, là, c'est une question intéressante et une question pertinente, coach Lamine. Maintenant, Neymar est du côté du Paris Saint-Germain. Bon, là, il est blessé, mais
il va jouer, effectivement, la rencontre, mais c'est la cheville.
Il sera déjà rétabli.
On a déjà joué au foot,
notamment pour le corps. Les coéquipiers de Neymar et notamment de Kylian Mbappé qui aimeraient bien jouer à ses côtés face au FC Barcelone pour leur montrer, coach Lamine, que le Paris Saint-Germain, ce n'est plus le Paris Saint-Germain de 2017. Il s'en est passé des choses avant. Et cette, la chose la plus importante qui s'est passée, que je termine, c'est la saison de l'année dernière. Le PSG loupe effectivement cette finale de Ligue des Champions de pas grand-chose. Il passe à côté effectivement d'un exploit. Mais là où je peux te répondre, coach Lamine, c'est que le Paris Saint-Germain reviendra effectivement dans le cadre de ces huitièmes de finale-là. Pas avec le même visage qu'en 2017, mais avec le même visage avec la Grinta de l'année dernière et avec beaucoup plus encore d'expérience qu'ils ont pu acquérir durant toute cette période-là et qui va faire d'eux, pourquoi pas, le bourreau du FC Barcelone.
Moi, je pense qu'ils peuvent. Par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on a vu hier, je ne suis pas sûr réellement, comme le disait le doyen Willy, avec une équipe qui, chaque fois qu'il y a quelques petits soucis, eh ben, les stars veulent prendre le jeu à leur compte pour essayer de
Coach Lamine, le match aller est au Camp Nou, en Espagne, et le match retour sera au Parc des Princes.
Ben oui,
pas l'oublier.
Oui,
mais pour l'instant...
On a vu une équipe de Barcelone qui, que ce soit à Babelwed ou à Truc, ils jouent de la même manière. Le seul hic qu'il y a eu, c'est qu'ils ont été battus par la Juventus et ils ont lâché contre la Juventus. Mais c'est une erreur de leur part de lâcher contre la Juventus parce qu'ils auraient pu quand même être premiers et éviter peut-être le PSG.
C'est parce qu'ils étaient qualifiés qu'ils ont pu faire cette erreur-là. Mais c'est-à-dire que les deux équipes se ressemblent énormément.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils sont bourrés de stars qui, à chaque fois qu'ils sont dos au mur, les stars sortent leur talent, ils veulent régler le problème tout seul. Donc si jamais le PSG va au Barça pour gêner le Barça, ils peuvent faire quelque chose de mal. Il faut aller à Barcelone en cherchant de battre Barcelone à l'extérieur. S'ils ont les moyens de le faire, ils peuvent le faire.
Ouais, moi, je pense qu'ils ont les moyens. Après, il ne faut pas oublier, coach Lamine, que le Barça, ce n'est pas le Barça de l'année dernière où il y a d'autres...
Mais c'est toujours...
Le Barça, actuellement, ils sont 8e du championnat.
Mais ça ne veut rien dire.
Ça ne veut rien dire. La semaine passée, la Juve est venue s'imposer au Camp Nou 3-0, coach Lamine.
La Juve de
Cristiano Ronaldo, elle a tapé... Tout peut se passer.
Je peux vous dire que quand même une équipe comme celle de Barça, où tu as quand même des attaquants comme Dembélé, comme Messi, comme Coutinho, comme tous ces joueurs-là qui peuvent te sortir un grand match lors des grands rendez-vous.
On est en huitième de finale de la Champions League.
C'est un coup KO.
C'est ça. Donc c'est un
match qui sera tout autre et Neymar ne sera pas du côté de Barcelone. Il sera avec le Paris Saint-Germain. Je pense que ça va être vraiment un match intéressant, un huitième de finale très intéressant à suivre et qui pourrait peut-être effacer une humiliation historique qu'avait subie.
Oui, cette humiliation ne pourra jamais s'effacer.
Ah, mais c'est...
Ouais, là, 4-0,
6-1.
6-1,
4-0, c'est.
Ça pourra jamais. Ça reste l'histoire. Ça, ça reste dans l'esprit et dans l'histoire.
On rappelle les autres affiches, Coach Lamine. Il y a Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Lazio de Rome, Bayern Munich, Atlético Madrid, Chelsea, Leipzig, Liverpool, FC Porto contre la Juventus Turin, FC Séville Dortmund et Atalanta Bergame, Real Madrid.
Voilà, ouais. Avec un Real toujours bien placé. Hein.
Oui, ouais, toujours, parce qu'ils ont des joueurs pour. Ils ont des joueurs pour, donc si ça, ils sont dos au mur, ils sortent tout, donc ils ont le moyen de faire plaisir à leur coach.
Ouais.
Et à Hakim, hein, ça, sans oublier.
Ah, surtout Hakim. Moi, le Real, je suis, je le dis, je suis supporter.
Mais bien sûr.
Parole de supporter.
Voilà, messieurs, il nous reste une minute, un petit tour de table, doyen.
Oui.
Rapidement, qu'est-ce qui...
C'était l'histoire du match au Parc des Princes par rapport à l'arbitre roumain qui parce que l'arbitre roumain devrait savoir que si on est dans un truc officiel, on ne parle pas comme dans un match de son village en Roumanie. Donc le problème, c'est que je sais pas, du racisme, moi je veux pas savoir, je sais pas quelle idée il a, mais quand on est dans un truc officiel, on ne parle pas comme si on est à la maison ou bien on est au bistrot du coin. Mmh. Donc,
ouais. Hakim. Moi, j'avais juste, Coach Lamine, rapidement, vraiment en quelques secondes, rendre hommage à Gérard Rouillet, ancien sélectionneur des Bleus, qui est décédé à l'âge de 73 ans. Coach Lamine, il a entraîné notamment aussi Liverpool avec Steven Gerrard, avec Michael Owen et d'autres joueurs encore, Eladji Diouf, qui était sous son aile, Coach Lamine. Champion de France avec le PSG, Lyon, vainqueur de la Coupe de l'UEFA avec Liverpool, et puis sélectionneur avec l'équipe de France. Donc un hommage pour ce grand homme du football qui nous a quittés à 73 ans.
Merci mes amis, on se retrouve donc semaine prochaine. Et puis prenez soin de vous, vous aussi chers auditeurs, prenez soin de vous. Allez, merci de nous avoir écoutés.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa Radio.